tout de suite le journal Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Des tirs de missiles contre des bases utilisées par l'Iran en Syrie. Au moins 26 combattants tués, dont une majorité d'Iraniens. Correspondance d'Étienne Monin à Jérusalem. Analyse d'Éric Biegala dans cette édition. Un double attentat suicide à Kaboul. Au moins 25 personnes tuées. Attaque revendiquée ce matin par le groupe État islamique. Précision de Nadine Epstein. L'actualité en France. Les forces de l'ordre évacuent le site censier de l'université Paris 3. 10 jours après l'opération similaire à Tolbiac. Vendredi dernier, Emmanuel Macron jugeait que la situation dans les universités allait vers l'apaisement. On fera le point avec Eva Jednak. Une semaine sociale encore agitée sans doute avec la poursuite des grèves dans les transports. À Air France, des négociations reprennent cet après-midi. Le secrétaire général du Parti communiste français plaide pour une journée de mobilisation nationale au mois de mai ou en juin, où tout le monde, dit-il, pourrait converger contre la politique du gouvernement. Analyse politique de Stéphane Robert. La fusion des numéros 2 et 3 des supermarchés britanniques Sainsbury's et Asda pour rivaliser avec les distributeurs allemands Aldi et Lidl, deux discounters qui gagnent rapidement des parts de marché en Grande-Bretagne. Commentaire d'Anne-Laure Chouin et puis l'invité de la séquence interview, Nicolas Bay, vice-président du Front National chargé des affaires européennes. Ce sont donc deux bases gouvernementales qui ont été prises pour cible en Syrie, un aéroport militaire à Alep et le siège d'une brigade de l'armée à Hama dans le centre du pays où sont notamment stationnées les forces iraniennes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 26 combattants ont été tués dans ces frappes, dans cette frappe de la brigade 47, dont 4 Syriens. Les autres sont des combattants de nationalité étrangère. Les deux objectifs servaient également, abritaient notamment des munitions. Ils ont explosé au début de la nuit, générant des gerbes de feu qui étaient visibles à des dizaines de kilomètres. Donc très très forte explosion, tremblement de terre même mesuré par les sismographes autour de 3 degrés sur l'échelle de Richter. Interrogé à la radio militaire israélienne, le ministre des Transports, Israël Katz, qui est aussi chargé des renseignements, affirme ne pas être au courant de l'événement. Mais les médias israéliens, eux, s'intéressent de près aux cibles qui ont été visées.
Oui, dans cette affaire, pour connaître l'auteur, il faut d'abord identifier la victime. Ce que l'on sait pour l'instant vient essentiellement de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce que dit son directeur ce matin, c'est que la grande majorité des victimes sont des Iraniens, que les deux sites qui ont été visés sont utilisés aussi par les Iraniens, près d'Alep et de Homs, et que c'est notamment un entrepôt de missiles sol-sol qui aurait été touché, vraisemblablement dans un bunker, d'après un site d'information libanais qui accrédite l'idée d'un raid aérien. Les installations iraniennes en Syrie sont dans le viseur des Israéliens depuis un premier accrochage au mois de février. Il y a un peu moins d'un mois, un bombardement a été attribué à Israël. Hier encore, le ministre de la Défense en visite aux États-Unis a répété que son pays entendait agir à sa guise sur le territoire syrien. Et le président américain ainsi que le premier ministre israélien se sont entretenus hier sur le sujet iranien. La stratégie israélienne a évolué de façon spectaculaire ces derniers mois. La menace identifiée, c'est l'installation de bases iraniennes en Syrie. Le risque d'escalade est palpable. Les Iraniens ont menacé Israël après les frappes d'avril et les Russes ont fait savoir qu'ils comptaient livrer aux Syriens leur système de défense antiaérien, ce qui réduirait sensiblement la capacité d'action des Israéliens dans ce domaine.
Merci beaucoup, Étienne Monin, donc correspondant de Radio France à Jérusalem. Des frappes, Éric Biegala, bonjour.
Bonjour.
Des frappes qui sont évidemment à inscrire dans cette longue série déjà connue. Israël avait mené un raid notamment début avril contre une base syrienne qui avait provoqué la mort de 7 militaires syriens.
C'était pas la première fois que cette base, Tias, c'est entre Palmyre et Homs, avait été frappée par un bombardement aérien, très probablement lancé par l'aviation israélienne. C'était même la troisième. Alors Israël ne confirme pratiquement jamais ses opérations militaires, mais on peut lui imputer plusieurs dizaines d'opérations de ce genre en Syrie. La firme de consulting en sécurité Lebec International, basée dans le Golfe, comptabilise près d'une quarantaine d'opérations de ce type depuis 2015. Et en fait, un général israélien a récemment confirmé publiquement que depuis le début de la guerre syrienne, il y a 7 ans, Israël a lancé en tout près de 100 frappes aériennes en Syrie, visant surtout le Hezbollah libanais dans un premier temps, mais de plus en plus souvent les Iraniens eux-mêmes ou leurs bases. Plusieurs officiers supérieurs, dont 2 généraux de la force Al-Quds, des gardiens de la révolution iranien, ont d'ailleurs été tués en Syrie par des frappes ciblées.
Alors hier, le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, réaffirmait De son côté, la ligne dure de Washington vis-à-vis de Téhéran, il soutenait que l'ambition de l'Iran restait bien de dominer toute cette région du Moyen-Orient. Des accusations absurdes, infondées, rétorquaient ce matin les affaires étrangères iraniennes. Alors que l'on attend toujours évidemment la décision très importante de Donald Trump sur un retrait éventuel des États-Unis de cet accord nucléaire avec l'Iran. On voit bien que les risques s'accroissent de voir la guerre en Syrie se transformer en confrontation directe entre les puissances. Eric.
C'est vrai que le théâtre syrien a longtemps été l'occasion de mener des guerres par procuration, comme on dit, hein, les uns ou les autres armant certaines factions pro ou anti-régime. Mais avec ces opérations visant directement les Iraniens en Syrie, Israël semble vouloir entrer dans une confrontation directe avec l'Iran. Et Israël n'est pas tout à fait seul en Syrie. La chose est passée presque inaperçue, mais les États-Unis ont, semble-t-il, eux aussi participé avec leur aviation à une opération en appui des forces démocratiques syriennes ce week-end et visant directement des unités pro-régime, dont des brigades chiites armées par l'Iran. Et c'était dans la province de Deir ez-Zor. Le mois dernier, dans la même région, ce sont des Russes, des mercenaires, qui s'étaient retrouvés en première ligne face aux forces démocratiques syriennes. Et ces mêmes Russes s'étaient fait décimer par une contre-attaque américaine. C'était la première fois qu'Américains et Russes s'affrontaient directement en Syrie.
Merci beaucoup Eric Biegala. Il faut parler encore de ce double attentat, suicide à Kaboul, au moins 25 personnes tuées, attaque rapidement revendiquée par le groupe État islamique qui s'en prend dans un communiqué aux apostats des forces de sécurité et des médias. Il y a 6 journalistes et 4 policiers qui figurent au nombre des tués dans ces deux explosions. Parmi eux, le photographe du bureau de l'AFP à Kaboul qui s'était rendu donc sur les lieux de la première explosion qui a été tuée par la seconde déflagration survenue. Une trentaine de minutes plus tard, les talibans afghans avaient annoncé la semaine dernière le début d'une opération de printemps, offensive traditionnelle de printemps, après avoir rejeté les négociations de paix avec le gouvernement. Les forces de l'État islamique semblent avoir voulu être les premiers à agir sur le terrain, Nadine Epstein.
Et selon les Nations Unies, Kaboul est pour les civils le lieu le plus meurtrier d'Afghanistan. Les attentats commis soit par l'État islamique, soit par les talibans, ont tué ces 4 derniers mois près de 800 personnes et fait 1500 blessés, soit 2 fois plus de victimes qu'il y a un an. Début janvier, le IAEA a revendiqué 6 suicides de kamikazes il y a une semaine contre un centre d'enregistrement pour les législatives, en mars celui devant l'université de Kaboul, fin janvier contre l'académie militaire et 2 autres contre des policiers et des manifestants et dans un quartier chiite. Les talibans ont eux aussi endeuillé la capitale afghane. En début d'année, une ambulance piégée près du ministère de l'Intérieur, l'attaque dans l'hôtel intercontinental. Les talibans qui ont refusé, vous l'avez dit, de se transformer en un parti politique légitime et de négocier la fin de plus de 16 années de guerre, entendent poursuivre leur lutte contre les Américains et le pouvoir en place, ce qui risque de perturber les élections législatives et locales d'octobre prochain. Parallèlement, Washington, qui compte 14 000 soldats en Afghanistan, ont en janvier dernier suspendu leur assistance militaire au Pakistan, l'accusant de mensonges et de duplicité. Islamabad est accusé de se servir des talibans afghans comme des supplétifs et de les abriter sur son territoire. Ce matin, outre Kaboul, un attentat suicide a visé un convoi de l'OTAN près de l'aéroport de Kandahar. 11 enfants ont été tués, 16 personnes blessées, dont 5 soldats roumains et 2 policiers afghans.
Et oui, 11 enfants qui étaient venus justement se masser autour de ce convoi de l'OTAN. Merci beaucoup Nadine Epstein. Midi 39 minutes, les forces de l'ordre ont évacué ce matin le site de Sancier de l'université Paris 3. Nous sommes 10 jours après une opération similaire à Tolbiac pour lever donc ces blocages contre la réforme de l'accès à la fac. Évacuation qui a concerné une 50aine de personnes et qui s'est faite dans le calme et sans incident selon la préfecture. Vendredi dernier, on s'en souvient, Emmanuel Macron jugeait que la situation dans les universités allait maintenant vers l'apaisement. Et puis le Premier ministre, Édouard Philippe, assurait qu'on fera en sorte que les examens se déroule dans de bonnes conditions. Eva Jednak, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était ce matin donc la reprise universitaire, la reprise d'ailleurs scolaire en général, avec essentiellement maintenant pour les étudiants la perspective de la tenue des examens. Est-ce que l'apaisement est bien au rendez-vous ?
Eh bien oui, les vacances la semaine dernière ont été l'occasion de remettre de l'ordre dans les universités. D'autant plus que, vous l'avez dit, les étudiants pour la plupart n'ont plus cours, ils sont en période de révision ou d'examen. À Nancy, Metz, Paris, Strasbourg et Montpellier, les campus bloqués ont été évacués. Et sans problème. Montpellier, où la rentrée ce matin à la faculté de lettres Paul Valéry s'est déroulée sous haute surveillance mais dans le calme. Les entrées se sont faites au compte-gouttes, encadrées par 12 agents de sécurité. L'université Jean Jaurès à Toulouse reste l'un des derniers campus bloqués. Une AG doit d'ailleurs débuter dans quelques instants pour voter la poursuite ou non du mouvement. Cela fait près de 2 mois qu'aucun cours n'a eu lieu sur les bancs de la faculté. Et par ailleurs, on attend aujourd'hui la décision du tribunal administratif de Toulouse. Des étudiants du syndicat UNI, opposés au blocage, ont déposé la semaine dernière un référé pour obtenir l'intervention de la police sur le site. Une requête à laquelle l'université s'est opposée, plaidant l'absence d'urgence et d'utilité de la mesure. Le mouvement, donc, on le voit au sein même des universités, s'épuise, mais il pourrait trouver un second souffle, tout d'abord dans la rue. De nombreux syndicats étudiants appellent à poursuivre la lutte contre la réforme de l'accès à l'université en manifestant dès demain, le 1er mai, aux côtés des autres mobilisations sociales. Puis, dans un second temps, à la fin du mois, le 22 mai, précisément, avec, sur Parcoursup, la première vague de réponse aux vœux formulés par les lycéens.
Merci Eva Jednak. Effectivement, la semaine sociale pourrait être agitée. Poursuite d'abord des grèves dans les transports à la SNCF, à Air France. À Air France, des négociations vont redémarrer cet après-midi. Le secrétaire général du Parti communiste, Pierre Laurent, plaidait ce matin pour une journée de mobilisation nationale, disait-il, en mai ou en juin, où tout le monde pourrait converger contre la politique du gouvernement. Pour Pierre Laurent, qui doit participer ce soir, place de la République à Paris, à un meeting unitaire en soutien aux luttes sociales, aux côtés notamment de Benoît Hamon ou encore d'Olivier Besancenot. Les uns et les autres vont se retrouver demain pour ce traditionnel défilé du 1er mai, puis le 3 aux côtés des cheminots, des enseignants et des lycéens, et le 5 pour cette manifestation qu'on appelle la fête à Macron. Enfin, c'est comme ça que l'appelle l'initiative, celui qui a pris l'initiative de cette manifestation, c'est-à-dire le député La France Insoumise, François Ruffin. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
La gauche donc cherche, on voit bien, à accompagner ce mouvement, peut-être même à conjuguer les différentes protestations, mais on a l'impression qu'elles perdent quand même un peu en intensité les unes et les autres au fur et à mesure que le printemps avance. Et le président de la République, qui lui s'est envolé pour l'Australie, ne semble pas vraiment trop s'inquiéter de la situation. Est-ce qu'il a raison selon vous?
Je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui qu'il a raison ou tort. En tout cas, pour ce qui concerne les différents mouvements de contestation, on voit bien que ça ne prend pas et qu'à court terme, on ne verra pas se réaliser ce qu'un certain nombre de formations politiques de gauche appellent la convergence des luttes. Dans les universités, il n'y a jamais eu qu'une quinzaine d'établissements concernés au maximum et on vient de le voir, c'est en train de s'éteindre. À la SNCF, la mobilisation s'affaiblit au fil que les semaines passent, doucement mais de façon continue. Et parallèlement, on assiste à une lente érosion du soutien de l'opinion à ce mouvement de grève. On en est aujourd'hui à 41% selon l'Institut IFOP dans une enquête publiée hier par le journal du dimanche. Et pourquoi ça ne prend pas? Parce que les différentes organisations qui portent cette contestation n'ont pas les mêmes intérêts et sont divisées. On le voit du côté des syndicats qui ne défileront pas ensemble à l'occasion du 1er mai. On le voit aussi sur le plan politique. Ce soir, le meeting organisé par différentes formations politiques de gauche autour d'Olivier Besancenot, de Benoît Hamon, de Pierre Laurent va se faire sans le PS et sans la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et si toutes ces formations sont divisées et ne recueillent pas un soutien majoritaire dans l'opinion, c'est parce qu'elles n'offrent pas de perspective politique à la contestation. Elles ne sont pas en mesure d'incarner une alternative. En gros, elles disent non aux réformes, mais pourquoi faire d'autres? Personne ne dit la même chose et donc on ne sait pas. Du coup, le message qui émane des différents mouvements de contestation semble être en quelque sorte uniquement contestataire et conservateur. Pour autant, on ne constate pas non plus parallèlement d'adhésion au projet d'Emmanuel Macron. Ces réformes sont perçues comme des réformes qui ne s'adressent qu'à une certaine partie de la population. Et l'image de président des riches s'installe. Au niveau européen, les projets du président français de créer un parlement, un budget de la zone euro, de nommer un ministre des Finances, sont largement contestés. Bref, si pour l'heure il n'y a pas de menace à court terme pour le président, les doutes, les craintes et le désarroi que renvoient aujourd'hui nos sociétés, tant au niveau national qu'au niveau européen, sont des ombres qu'il conviendrait sans doute pour l'exécutif de ne pas négliger.
Merci Stéphane Robert pour cette analyse. On salue l'invité de la séquence interview, Nicolas Bay. Bonjour.
Bonjour.
Vice-président du Front National. Donc Macron est en marche. A priori, rien ne paraît l'arrêter, ni la gauche, ni la droite, ni vous-même au Front National, parce qu'il n'y a pas de politique alternative, apparemment, en tout cas crédible, jugée crédible par l'opinion, par une majorité de l'opinion?
Je crois qu'il y a quand même beaucoup de Français qui attendent une politique alternative et notamment qui placent leurs espoirs dans le Front National. Et ils l'ont d'ailleurs exprimé il y a un an à l'élection présidentielle, puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu avec 100% des voix. Il a été élu avec, certes, une majorité confortable, mais Marine Le Pen avait rassemblé à cette occasion près de 11 millions de suffrages. Je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron parvient par des habiletés de communication à ne pas générer face à lui une hostilité très vive, Mais je crois que l'indignation est en train de monter, que la grogne est en train de s'installer dans le pays, et que par ailleurs, il ne dispose pas non plus d'ailleurs de soutien très important. Je crois que la politique qu'il mène, elle apparaît pour ce qu'elle est, elle est au service d'une petite catégorie, ceux qui l'ont fait élire, ceux qui veulent aller encore plus loin dans la dérégulation, dans la suppression des protections économiques, et la réforme de la SNCF, tout le monde l'a bien compris, n'est qu'une première étape vers la suppression du service public du rail, et vers la privatisation du secteur ferroviaire. Et évidemment, nous sommes totalement opposés à cette dérive parce que le service public du rail, il est fondamental. Il doit faire l'objet de toutes les attentions des pouvoirs publics. Il nécessite en effet des investissements importants qui permettent le désenclavement des territoires, qui permet de faire vivre l'égalité républicaine, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas des Français qui soient totalement abandonnés sous prétexte qu'ils habitent loin des grandes métropoles.
Donc vous soutenez les grévistes de la SNCF ?
Nous soutenons tous ceux qui s'opposent à cette réforme, mais nous ne soutenons pas les syndicats de gauche et d'extrême gauche qui, aujourd'hui, sont totalement décrédibilisés dans notre pays, ne parviennent pas, d'ailleurs, pour cette raison-là, à rassembler, parce que on voit bien qu'ils sont des courroies de transmission des mouvements ou des partis de gauche, et qui, d'ailleurs, n'ont jamais réellement soutenu les travailleurs de notre pays, et c'est aussi pour ça que les salariés ne leur font plus confiance. Et je note d'ailleurs que la CGT, qui est en première ligne dans cette affaire, a appelé à voter pour Emmanuel Macron, alors que le projet politique d'Emmanuel Macron, s'agissant notamment de la SNCF, était parfaitement clair dès la période de campagne électorale.
On vous retrouve dans un petit instant, Nicolas Bay, pour parler notamment du 1er mai de l'Europe, mais on évoque d'abord cette nouvelle fusion dans le secteur de la distribution. Ce sont les numéros 2 et 3 des supermarchés britanniques, Sainsbury's et Asda, qui est une filiale du groupe américain Walmart, qui annonce donc qu'ils fusionnent leur activité pour créer un géant qui pourrait dépasser même le leader historique anglais, Tesco. Au-delà du secteur alimentaire, les distributeurs traditionnels connaissent des temps assez difficiles en Grande-Bretagne, comme d'ailleurs dans d'autres pays, entre la concurrence de la vente en ligne qui est très forte et puis les difficultés aussi à fidéliser des clients au pouvoir d'achat de plus en plus comprimé. C'est notamment le cas aussi en Grande-Bretagne avec la perspective du Brexit. Anne Lorchouin.
Oui, et avec cette opération, c'est effectivement la recomposition du secteur de la grande distribution internationale qui se poursuit. Avec dans le cas britannique une particularité, vous l'avez évoqué, le secteur souffre des incertitudes liées au Brexit qui, en dépréciant la livre, a fait monter les prix. Or, rappelons que les rayons des supermarchés anglais offrent, beaucoup plus qu'en France par exemple, énormément de produits importés. Les distributeurs traditionnels, dont Sainsbury's et Asda font partie, souffrent par ailleurs de la concurrence de la vente en ligne et de celles qu'on appelle les hard discounters allemands, Aldi et Lidl pour ne pas les nommer, qui en proposant des produits à très bas prix ont attiré une clientèle qui voit depuis quelques années son salaire réel s'éroder de plus en plus. Cette fusion, qui est en fait plutôt un rachat de Asda, la filiale du géant américain Walmart, par Sainsbury's, fera donc du nouveau groupe le leader de la distribution en Angleterre, selon la doctrine bien rodée, selon la stratégie donc du grossir pour éviter de mourir. En fusionnant, le nouveau groupe pourra peser encore plus lourd pour négocier les tarifs de ses fournisseurs. Un intérêt également bien compris par le propriétaire de Asda, Walmart, qui devient de fait actionnaire du nouveau groupe à 42%. Sa filiale sera ainsi gérée par Sainsbury's et le groupe américain pourra se reconcentrer centré sur son marché domestique qui souffre lui aussi de la concurrence d'Amazon notamment. Une opération qui n'a pas encore reçu l'autorisation des gendarmes de la concurrence et une opération qui inquiète les fournisseurs. Ils s'attendent à voir leur prix encore orienté à la baisse. Ça inquiète aussi les petits commerçants qui n'ont jamais, il est vrai, bénéficié d'une politique très favorable au Royaume-Uni. Et puis ça inquiète aussi les députés travaillistes qui craignent, eux, les conséquences sur l'emploi.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Retour vers notre invité Nicolas Bay, vice-président du Front National chargé des affaires européennes. On est à un an maintenant des élections européennes. Le Front National ne fête pas le 1er mai demain à Paris comme de coutume, mais à Nice avec ses alliés pour défendre l'identité et la souveraineté des nations. Donc outre Marine Le Pen, on y attendait le chef de la Ligue du Nord qui finalement ne viendra pas ou sera représenté par une vidéo, c'est ça que vous me disiez à l'instant, Nicolas.
Oui, il y aura une dizaine de représentants dirigeants des partis politiques alliés que nous avons partout en Europe.
Alors et le secrétaire général du FPE
de Matteo Salvini ne sera pas représenté par Matteo Salvini lui-même qui est aujourd'hui accaparé par les par les négociations en vue de constituer un gouvernement en Italie, mais
alors, ça, il y aura les Autrichiens.
C'est une bonne
aura...
nouvelle parce que c'est la conséquence des bons résultats électoraux qu'il a obtenus. Mmh. Mais la Lega sera évidemment représentée et en effet, Matteo Salvini s'exprimera sans être physiquement présent.
Alors, les Autrichiens, les Néerlandais, les Belges, les Tchèques, les Polonais, les Bulgares, les Grecs aussi. Il s'agit de rassembler tous ceux qui sont dans le groupe Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen et puis susceptibles aussi d'obtenir des élus pour cette élection. Vous êtes un peu l'artisan de cette manifestation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des européennes? Quelle est votre ambition? Quelle serait votre visée?
Je crois qu'à un an des élections européennes, c'est l'occasion évidemment pour nous de montrer notre volonté de rassembler, d'abord en France, tous ceux qui croient dans la nation, tous ceux qui ne veulent pas du projet de fédéralisme à marche forcée qui est promu par Emmanuel Macron, et nous entendons les fédérer autour du Front National, mais pas, ce ne sera pas le Front National seul. Et puis, à l'échelle européenne, c'est vrai que nous partageons, dans les grandes orientations, une volonté de défendre une autre Europe, de construire une autre Europe. Nous ne sommes pas anti-européens, nous savons qu'il y a des défis que devront relever ensemble demain les nations européennes, celui de l'identité, celui de la sécurité, celui de la nécessité de protéger les économies de nos pays. Et nous, cette ligne politique-là, nous la partageons d'ores et déjà avec de très nombreux alliés avec qui nous travaillons au quotidien au
Parlement européen. Combien vous voulez peser au Parlement, par exemple?
Je ne vais pas vous donner un chiffre, ce serait un peu prématuré à un an de l'élection européenne, mais nous avons aujourd'hui déjà 36 députés de 8 nationalités différentes. Il y a beaucoup de nos partis alliés qui vont entrer au Parlement européen à l'occasion de 2019, mais au-delà même d'ailleurs de notre alliance actuelle ou de nos alliés futurs, je crois qu'il y a aujourd'hui une volonté qui s'exprime partout en Europe d'en finir avec l'Europe punitive de la Commission européenne. Il y a une volonté des peuples que la démocratie fonctionne à nouveau en Europe et qu'on en finisse avec des orientations désastreuses et un fonctionnement antidémocratique de l'Union européenne. Et ça, c'est ce qu'ont exprimé les Polonais.
Sauf que vous ne voulez pas remettre en cause le fonctionnement ni l'euro. Donc, alors, vous ne remettez pas en cause les fondamentaux, ça pourrait difficilement changer.
Non, on remet totalement en cause le fonctionnement actuel de l'Union européenne et ses orientations politiques. Aujourd'hui, la Commission européenne accapare tous les pouvoirs, l'initiative législative, ensuite la réglementation et les directives, et enfin le contrôle de l'application. C'est des pouvoirs exorbitants qui sont entre les mains de technocrates sans légitimité, qui ne sont pas élus, et ça c'est évidemment insupportable. Et puis les orientations politiques, les traités de libre-échange, c'est-à-dire l'absence de toute protection douanière qui tue nos industries, qui tue notre agriculture, c'est l'absence de frontières qui fait que le continent européen est livré à l'immigration massive et totalement anarchique, et c'est contre ces orientations politiques-là que nous combattons. Et aujourd'hui, nous sommes très nombreux partout en Europe à vouloir un changement.
Stéphane Robert.
On voit là que vous êtes dans la dénonciation de ce qui est, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même envisager de reconstruire le message du Front National sur l'Europe, puisqu'on voit bien qu'au moment de la présidentielle, c'est sur ce message européen du Front National que Marine Le Pen a en quelque sorte un peu perdu et s'est décrédibilisé un petit peu.
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu peut-être une ambiguïté sur la question monétaire, pour être très précis, mais d'une manière générale, on a toujours défendu une Europe des nations, des coopérations, des protections face à cette Union européenne. Et c'est le message que nous porterons demain, et c'est un message positif. C'est pas simplement la critique de l'Union européenne, son fonctionnement ou ses orientations. C'est aussi la volonté de construire des coopérations. Par exemple, il y a une nécessité pour défendre notre identité et restaurer la sécurité, d'avoir une coopération pour contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il n'y a aucune volonté politique dans ce sens. Il y a des grands enjeux modernes. Je pense à la sécurité alimentaire, je pense à la protection des données personnelles, je pense à l'intelligence artificielle, où l'Union européenne est totalement absente. L'Union européenne, aujourd'hui, elle est présente là où elle ne devrait pas être. Elle se mêle de tout et n'importe quoi et porte atteinte à la souveraineté des nations, mais elle n'est pas présente là où elle pourrait utilement organiser des coopérations entre les peuples, comme ça a été le cas dans le passé.
Faire l'Europe, les nationalistes qui allaient faire l'Europe finalement fédérale.
Mais non, pas du tout. Nous allons construire justement une Europe qui respecte les souverainetés mais qui peut organiser les coopérations. Vous savez, il y en a eu beaucoup d'exemples dans le passé. Ariane ou Airbus, des succès industriels incontestables, ils ne doivent absolument rien à la Commission européenne et au fédéralisme européen. C'est justement des nations qui ont des intérêts communs, ont des objectifs, ont des compétences aussi qu'ils souhaitent mettre en commun et qui parviennent à donner une puissance collective à leur nation respective. Et c'est ça c'est comme ça que l'Europe doit être organisée de façon pragmatique sur des projets et non pas comme un espèce de super-État qui aujourd'hui organise l'impuissance collective des nations européennes.
Une dernière question.
Vous êtes aujourd'hui vice-président du Front National chargé des affaires européennes, co-président du groupe Europe des Nations et Libertés au Parlement européen. Est-ce que vous serez tête de liste ?
Mais je crois qu'aujourd'hui, nous travaillons, et je viens d'en parler, sur le fond, sur le projet, sur la stratégie de rassemblement, à la fois en France pour notre liste, mais également à l'échelle européenne. Viendra ensuite la question des candidatures. On est à un an de l'élection européenne. Il n'y a pas un seul parti, Stéphane Robert, vous en conviendrez, qui a aujourd'hui à désigner sa tête de liste aux européennes. Donc, chaque chose viendra en son temps.
Merci beaucoup Nicolas Bay d'avoir accepté de venir dans ce studio. Un mot du temps qui reste perturbé sur une grande partie du pays, de la pluie sur le nord et sur l'ouest. En fait, seul le pourtour méditerranéen est à l'abri avec un temps sec et calme, température de 7 à 23 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Yacine Bouzard et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.